en a qui trouvent que je suis un enfant de chien, un chaloux. Il y en a qui trouvent que je connais pas ça, le hockey.
Hey, on sait bien.
Ils ont 16 games de jouer avec le national. Ils peuvent se permettre de critiquer. Hey, on rit pas.
Écoute bien, ça me fait vomir quand je les regarde. Ça a pas de place dans mon équipe. Ça ne mérite pas d'avoir un uniforme.
Entrée dans le vestiaire. Avec Michel Tifon et Dominique Bolduc.
Bon début de semaine, mesdames, messieurs, il pleut à l'extérieur. Dominique Bolduc sera au téléphone tantôt parce qu'il soigne une gastro. Dominique, tantôt, va nous raconter ce qui s'est passé au Palais des sports de Jonquière vendredi soir. Oui, les Marquis ont subi la défaite contre Thetford Mines, mais derrière le banc de Thetford Mines, ça a brassé. Et est-ce qu'il y aura besoin de plus de sécurité derrière le banc de l'équipe adverse? Peut-être que oui. On va en discuter tantôt avec Dominique, qui est au repos, mais étant donné que je n'ai pas assisté au match, j'étais à Nez Rouge vendredi soir, Dominique va nous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'amateurs de hockey qui me posent la question, « Michel, on n'a pas vu encore Justin Saint-Pierre officier un match de la Ligue nationale de hockey cette année. Qu'est-ce qui se passe avec Justin Saint-Pierre? » Il sera notre invité dans le vestiaire aujourd'hui. On va lui poser la question à Justin. Ben, il est blessé. Mais c'est quoi la nature de sa blessure? Est-ce qu'il va revenir sur la glace pour arbitrer? Ben, je pense qu'il y a une blessure assez sérieuse. Alors, Justin Saint-Pierre sera avec nous dans le vestiaire dans les prochaines minutes pour nous expliquer le pourquoi qu'il n'est pas sur la glace des patinoires de la Ligue nationale de hockey pour arbitrer. On va également, comme à tous les lundis, parler avec un ancien joueur des Saguenay-Chicoutimi. Cette semaine, c'est Frédéric Bouchard. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce défenseur style offensif, parce que c'est un gars qui a marqué beaucoup de points. Il a compté des buts, beaucoup de passes, joueur qui sortait bien la rondelle. Il sera notre invité tantôt aux alentours de 16h avec Yves Bolduc. En parlant des Saguenay-Chicoutimi, les trois derniers matchs, victoire de 6-4 jeudi contre les Remparts de Québec. Victoire de 7-0 à Blainville-Boisbriand vendredi soir. Premier jeu blanc de la saison pour Raphaël Précourt, gardien de but. Et hier, au Centre Georges Vézina, victoire de 5-1 contre l'Océanique de Rimouski. Loïc Hussereau a été choisi le joueur de la semaine chez les Saguenay. Habituellement, lundi, on jase avec Yannick Jean. Mais là, ils se préparent pour un long voyage. Ils vont jouer à Rimouski mercredi. Après ça, c'est dans les Maritimes. Alors, Yannick Jean pourra jaser avec lui demain. Mais Loïc Hussereau, défenseur, a été choisi le joueur de la dernière semaine. Mais que dire également du travail remarquable de Émile Guité en attaque? Trois matchs de suite avec des points. Il y a 7 points dans les trois dernières parties. Mention honorable. Les Saguenayens vont bien. À domicile, ils sont presque imbattables. L'avantage numérique des Saguenayens fonctionne à merveille. Et là, ils ont commencé à gagner sur la route, ce qui est très encourageant. À part ça, ben, ce qui retient l'attention, ben, c'est le Canadien, qui ont quand même bien joué malgré la défaite, parce que contre Los Angeles, ils n'étaient pas là, mais pas pantoute. Mais ils ont quand même gagné 2 matchs dans ce voyage, qui va se terminer mercredi à Columbus. Puis je vais en parler tantôt avec Dominique, Jake Allen. Je pense sincèrement que la valeur de Jake Allen, il n'y a plus de valeur. Parce que là, il y a 3 ou 4 défaites de suite. Il était faible sur 2 buts dans la défaite de 4-0 contre les Kings de Los Angeles. Le pourquoi qu'il n'y a plus de valeur, bien, les deux raisons que je viens vous donner. Ensuite, bien, il y a l'âge. Il y a 34 ou 35 ans. Et il y a un gros contrat. Moi, je pense sincèrement qu'au moment où on se parle, même si le Canadien voudrait échanger Jake Allen, il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur, Jake Allen. On ne pourrait pas avoir grand-chose, même si on l'échangeait. Et j'ose croire que mercredi, le gardien de but partant à Columbus, ce sera Samuel Motombo. C'est lui qui est le numéro 1 au moment où on se parle. Puis le fameux ménage à 3, on en parle depuis un bon bout de temps. Il va falloir que ça arrête. On se débarrasse de Jake Allen? On envoie Primo au ballottage ou dans la Ligue américaine, mais il faut l'envoyer au ballottage d'abord. Puis échanger Jake Allen, je viens de vous le dire. J'ai hâte d'entendre. Tantôt, je vais poser la question à Dominique au téléphone, parce qu'il va nous parler du match des Marquis, puis ce qui s'est passé dans les estrades. Mais je pense que Jake Allen, c'est pas son préféré. Puis à mon avis, moi, Jake Allen, au moment où on se parle, sa valeur est pas très, très grande. Ce soir, dans la Ligue nationale de hockey, les Sénateurs d'Ottawa qui n'ont pas beaucoup de matchs de jouer. La plupart des équipes ont 20 matchs de jouer, le quart de la saison. Mais les Sénateurs ont seulement 16 parties de jouer. Ils jouent pour 500, 8 victoires, 8 défaites. Ce soir, c'est contre les Panthers de la Floride. Il y a également les Bruins de Boston qui jouent ce soir contre les Blue Jackets de Columbus. Hey, Canadiens, quand ils vont jouer contre Columbus, là, mercredi, j'espère qu'ils vont profiter de la fatigue de Columbus qui ont joué hier et ils jouent ce soir également. Alors, Canadiens devraient être reposés pour jouer contre Columbus. On me confirme à l'instant que c'est Motombo. J'espère que c'est Motombo. C'est Motombo qui va garder les buts mercredi contre les Blue Jackets. J'espère qu'on ne ramène pas Jake Allen, il ne gagne pas. Et Jake Allen contre Los Angeles, il a été fait pas à peu près. Même si les Kings ont dominé, là. La première période, je ne sais pas si vous avez écouté le match, là, la première période contre les Kings, le Canadien a un lancé, puis dans le fond, si vous avez écouté le match, là, c'est même pas un lancé. C'est un dégagement de la ligne bleue de l'autre côté qui s'est rendu jusqu'au gardien de but. Je l'aurais arrêté comme gardien de but. Alors, ils ont été vraiment un lancé, puis c'est même pas un lancé. Donc, normalement, ça aurait été zéro lancé en première. Mais si Canadiens gagnent à Columbus mercredi, on va dire, ben, ils ont fait de la job. Puis dans le fond, oui. Mais contre Los Angeles, ça n'a pas bien été. Dans les autres matchs ce soir, les Sabres contre les Rangers, le Lightning de Tampa Bay contre l'Avalanche du Colorado. En parlant de Colorado, vous l'avez vu un peu dans les réseaux sociaux en fin de semaine, et puis ça s'est discuté dans les bulletins de sport à TVA Sport puis à RDS. Sam Girard qui va profiter d'un programme d'aide aux joueurs de la Ligue nationale. Alors, il va rater quelques matchs, mais bravo à Samuel Girard qui se prend en main pour tenter d'aider à sa situation. Dans les autres matchs ce soir, Washington contre San Jose et Calgary contre les Golden Knights. Il y a un match de football ce soir dans la NFL, les Vikings contre les Bears de Chicago. On s'arrête quelques instants et on vous revient dans le vestiaire.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5. Ma radio d'ici.
C'est la saison du partage chez Kia Rodelto. Affrontez les routes d'hiver en toute confiance avec le Kia Seltos 2024. Le nouveau Kia Seltos est disponible maintenant chez Kia Rodelto. Kia, du mouvement vient l'inspiration.
Voici maintenant les dépositaires de vos cartes de bingo, toujours à 5 $. À Alma, dépanneur du coin Shell, alimentation André Fortin, dépanneur épicerie Régnier, alimentation JH Marché Extra, alimentation André Fortin et Jello Music, avenue du Pont-Sud. À Arvida, Super Sagami Marché du coin, dépanneur Saint-Jacques Maestro, Maestro dépanneur Gino, Super Sagami dépanneur Boisvin, Super Sagami Langelier, Super Sagami dépanneur Dubose, à La Terrière, Super Sagami Nutrinor Énergie, le Super Sagami dépanneur Plus, Canton Tremblay, au Maestro accommodation chez François, à Chicoutimi, Super Sagami 7 à 11, Marché Centre-Ville, la Tabagie 500, la Tabagie CM, Métro Larouche Rivière-du-Moulin, Maestro Barrette, Super Sagami l'Appétit Trio, Super Sagami des Champs-Élysées, à Chicoutimi-Nord, dépanneur Sagny Pro, Provigo Gervais-Bouchard, Super Sagami Vanier, Super Sagami Relais du Nord. Procurez-vous votre carte de bingo, toujours à 5 $. Notre bingo au 92.5, les dimanches, 16 h.
Un membre de votre famille reçoit des traitements médicaux à l'extérieur de la région? La Fondation Ariane peut vous aider en partie à payer transport, essence, stationnement, nourriture et hébergement. La Fondation Ariane, toujours présente pour offrir un soutien financier à votre famille. Informations sur leur page Facebook.
Ici Mario Vézina. C'est un réel privilège pour moi de vous accompagner dans votre développement d'entreprise avec un média qui vous permet de toucher à une clientèle captive et intéressée à ce que nous proposons comme type de message publicitaire. Je vous propose ses qualités suivantes. Écoute de vos besoins, suggestions de texte, propositions novatrices, suivi de vos dossiers et un rendement assuré. Mon expérience en gestion des ventes et en développement des affaires dans ma carrière précédente vous permettra d'obtenir une satisfaction assurée. Le 92.5, une solution 100% régionale avec Mario Vézina, votre conseiller publicitaire. Vous pouvez me rejoindre au 418-698-9184 ou encore Mario Vézina à commercial ckj.org.
100% Saguenay-Lac-Saint-Jean.
92.5.
Ma radio d'ici. Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifo et Dominique Bolduc.
Les Saguenayens de Chicoutimi ont tellement été bons dans les trois dernières parties. Tantôt, je vous ai mentionné deux joueurs, Guité et Ussereau. J'en ai oublié un troisième, le gardien de but, Précourt. Alors, il y a trois joueurs des Saguenayens qui sont sur l'équipe d'étoiles de la Ligue junior majeure du Québec en raison des trois dernières victoires, soit Guité, Ussereau et le gardien de but, Précourt. Au début de l'émission, je vous disais, il y a beaucoup d'amateurs de hockey qui me posent la question. Justin Saint-Pierre, on le voit pas arbitrer dans la Ligue nationale de hockey. Y es-tu blessé? Il est avec nous dans le vestiaire. Justin, bonjour.
Salut, Michel, ça va bien?
Je te pose la question. Es-tu blessé?
Ben oui, ça va bien, mais oui, je suis blessé.
T'es blessé. Quelle est la nature? Parce que là, on t'a pas vu depuis le début de la saison. Les gens s'inquiètent parce que Justin Saint-Pierre, pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une fierté de voir un gars de chez nous arbitré dans la Ligue nationale de hockey. Ta blessure, est-ce que c'est grave?
Écoute, je suis allé au camp d'entraînement, puis j'ai vu les docteurs, on a fait des MRI qu'on appelle, puis après ça, on a pris une décision qu'il fallait que je me fasse opérer. Oui, c'est une grosse blessure, je me suis fait opérer le 10 octobre. Écoute, je fais de la physio, là, je suis revenu au Saguenay là, 2 semaines à peu près. J'ai fait de la physio à Columbus pendant un mois à peu près. Fait que c'est ça, on est rendu là, puis on va voir le dénouement de la blessure, comment ça va aller, la physio, la thérapie, tout ça. Là.
Dans le hockey, on dit souvent, blessure dans le haut du corps ou dans le bas du corps, tu ne feras pas comme le Canadien, tu vas nous le dire où tu es blessé?
Non, c'est un genou.
C'est un genou. À l'opération, dans le bas ouais. du corps, c'est un genou. Ça veut dire combien de semaines d'inactivité, Justin Saint-Pierre?
Oh, écoute, on a parlé au début de saison. On a parlé, ça peut être même toute la saison cette année. C'est qu'on ne sait pas encore. Ça va dépendre, comme je dis, ça va dépendre de la réaction, comment ça va, si ça va plus rapidement que prévu, mais je pense que ça peut être long. Alors, on va y aller avec la patience, puis on travaille fort pour revenir, mais écoute, c'est comme je dis, c'est pas évident.
L'intervention chirurgicale, c'est un succès? Ça s'est bien déroulé?
Oui, ça s'est très bien déroulé. J'ai pas eu de problème. Mais écoute, ça a été douloureux, mais comme on dit, je dis au monde, il y a des affaires pires que ça. Il y en a qui sont plus malades que ça. C'est une opération à genoux, ça fait partie de la vie. Comme je dis, ça, on va être patient, puis il faut guérir ça à 100% avant de revenir.
Souvent, des joueurs de hockey vont être là. Je veux pas te vieillir, Justin, mais t'es plus vieux que Caulfield puis Connor Bedard. Tu sais, les arbitres, ils ont 40 ans puis 50 ans. Est-ce que c'est plus long revenir d'une intervention chirurgicale au genou quand t'as une capuchon? Je sais même pas ton âge, mais je sais que t'as pas 20 ans. Là. Quand t'as 40, 50 ans, une opération au genou, est-ce que c'est plus long revenir?
Écoute, moi, je pensais que ça allait être plus long, mais j'ai vu le docteur, je me suis fait opérer le 10, j'ai vu le docteur 2 semaines après, puis la plaie, ça va super bien. Là, la plaie est complètement fermée. Je fais de la physio 5 fois par semaine, puis tout va bien. Écoute, je pensais que ça allait être plus long vu mon âge. Puis Michel, c'est pas l'histoire de demander l'âge, mais je vais te la dire.
Non, mais je te l'ai pas demandé ton âge. Mais je t'ai dit que t'avais plus 25 ans.
Non, c'est ça. J'ai 51, puis oui, ça peut être plus long, mais comme ça va, là, je pense que ça va super bien. Puis écoute, on se croise les doigts.
C'est-tu vieux, 51 ans, comme arbitre dans la Ligue nationale? Il y en a des plus vieux, mais il y en a des plus jeunes. T'es dans la moyenne, là, je présume?
Il n'a plus même des plus vieux que moi. Il y en a une couple, mais je commence à être des plus vieux.
Ah ouais? Les plus vieux qui ont arbitré dans la Ligue nationale des dernières années, c'est jusqu'à quel âge?
Je pense que c'est Brad Watson qui a arrêté, là, je ne sais pas, je fais comment il va avoir 55, je pense, Brad, quand il a pris sa retraite.
OK, donc des arbitres de 60 ans dans la Ligue nationale, il n'y en a pas?
Non, il n'y aura plus, puis il n'y en a pas, puis il n'y en aura plus, là, c'est impossible.
Alors, tu auras 52 ans l'an prochain, quand ton genou va être correct, ça te tente-tu d'arbitrer encore?
Ben, ça va me tenter, c'est sûr, mais écoute, comme je t'ai dit, là, moi, j'avais parlé avec mon boss à un moment donné, j'ai dit que avec 3-4 ans, j'ai dit qu'à 52 ans, je vais arrêter. Je vais avoir 52 ans en février. Ça fait que ça va être. C'est là qu'on va s'asseoir, puis on va jaser de ça. Mais écoute, pour l'instant, je me concentre sur ma blessure pour guérir ma blessure, puis après ça, le reste va suivre.
Alors, la grosse décision pour Justin Saint-Pierre, ça va être l'an prochain, parce que tu avais parlé de 52 ans, retour d'une blessure, mais la réhabilitation va bien. Ça, c'est ça qui est encourageant pour Justin Saint-Pierre. Là, tu t'entraînes, là.
Oui, là, ben là, je m'entraîne. Présentement, je fais de la physio pour mon genou. Je fais, même que je fais les jambes, je fais du vélo un peu. Mais je vais recommencer le haut du corps. Là. Je voulais commencer cette semaine. Probablement que mercredi, je devrais commencer à recommencer le haut du corps tranquillement. Là.
Au moment où on se parle, Justin, est-ce que ta blessure t'a fait souffrir? Ton opération? Est-ce que c'est souffrant?
En physio, oui. En physiothérapie, ça me fait souffrir. Présentement, là, je marche, je boite plus beaucoup. Il faut que je me concentre. Parce que si, tu sais, c'est à un moment donné, quand tu boites, ça vient naturel. On dirait que tu y penses pas puis tu boites tout seul. Mais quand que je me concentre à marcher sans boiter, je suis capable de le faire. Mais oui, ça me fait. En physiothérapie, ça me fait souffrir parce que là, il faut qu'il plie le genou puis. Quand il ne veut pas plier, ça fait mal. Fait que c'est ça.
Comment ça fonctionne, les arbitres? Les équipes de hockey ont des médecins attitrés. Pour les interventions chirurgicales, as-tu été opéré ici dans la région? Oh, ben, si la Ligue nationale de hockey te dit, écoute, c'est tel médecin qui pratique l'intervention chirurgicale à tel endroit dans la Ligue nationale?
Non, je me suis fait, parce que moi, je suis basé aux États-Unis, je me suis fait opérer à Columbus, à la maison, chez nous, à Columbus, en Ohio. Puis, c'est moi qui ai choisi mon médecin. J'aurais pu prendre le médecin d'équipe, j'aurais pu aller à Los Angeles, n'importe où, me faire opérer, mais j'ai choisi le docteur de Columbus, puis c'est là que je me suis fait faire l'opération.
OK. Et là, tu es revenu dans la région, tu n'es pas à Columbus au moment où on se parle?
Non, je suis au Saguenay, je suis revenu au Saguenay la semaine passée, je crois, ou le dimanche d'avant. Et puis, c'est sûr, j'ai ma fille ici, je suis venu trouver ma fille, puis je pense que c'est... Ça a été rough au début, l'opération. J'étais tout seul là-bas. J'ai un coloc là-bas, mais tu sais, c'est pas pareil. T'as pas ta famille, t'as pas personne. J'étais tout seul. Puis la première semaine, j'ai été couché. J'étais en marchette. Fait qu'à un moment donné, c'était rough sur le moral. Puis mon chum, mon grand chum de Jonquière, Régis Savard, il a flyé à Columbus. Il est venu me chercher. Il m'a conduit à Montréal. Puis il m'a ramené à Québec. Ma soeur m'a cherché à Québec. J'étais bien à le conduire. Fait que c'est comme ça que je me suis rendu au Saguenay. C'est grâce à, comme je dis, à Régis puis à ma soeur, mon beau-frère. Fait que c'est de même que je me suis emmené au Saguenay. Puis là, ça va bien, je conduis, je suis capable de conduire. Mais tu sais, je serais pas capable de partir, là, faire peut-être un 2 heures, 3 heures de route, là, je serais pas capable.
Écoutes-tu les games de hockey à la télévision?
Oui, un petit peu. Le soir, quand j'ai rien à faire, là, au début, je voulais pas les écouter, je trouvais ça rough, je trouvais ça dur parce que, comme je disais tantôt, je me suis fait opérer, puis tu sais, Michel, je pense que tout le monde me connaît, je suis un gars qui arrête pas, puis d'un bord puis de l'autre, puis ça, j'ai comme pogné un mur quand je me suis fait opérer le jeudi, le mardi matin, là j'étais plus capable de conduire, j'étais plus capable de marcher, j'étais plus capable de... Fait que ça a été rough, là. Fait que j'ai comme pogné un muscle, pour ça que j'ai trouvé ça dur d'être à Columbus en même temps. Mais là, ça va bien. Regarde, j'ai mes amis, j'ai ma famille, et j'ai du monde en arrière de moi. C'est que.
Une dernière question, Justin, puis on va te souhaiter un prompt rétablissement, là. Quand tu écoutes une game d'hockey à la télévision, t'arbitres-tu? T'as-tu le goût de siffler des fois pour dire, hey, il y a une infraction, ben il y a hors-jeu? T'arbitres-tu quand tu écoutes la game d'hockey à la TV?
C'est pas que j'arbitre, écoute, mais il y a des fois que c'est normal quand que tu vois un call que peut-être que moi j'aurais pas callé, je me dis je l'arrête-tu callé, je l'arrête-tu pas callé, ça fait que c'est embêtant. Mais non, je suis pas assis sur mon divan avec mon sifflet puis je chiffre, non.
Hey Justin, prends rétablissement, j'espère que tu vas pouvoir jouer au pickleball cet été. Puis l'an prochain, ben bonne décision parce que tu auras une décision à prendre l'an prochain à savoir si tu vas reprendre le sifflet et les patins.
Merci, Michel, t'es bien gentil.
Merci. Justin Saint-Pierre, blessé. On s'en doutait qu'il y avait une blessure du côté de Justin Saint-Pierre parce qu'on ne l'a pas vu encore arbitrer cette année. Opération au genou. Et l'an prochain, 52 ans, il y aura à prendre une décision de savoir s'il poursuit parce qu'il voulait prendre sa retraite à 52 ans. Ça aurait été normalement sa dernière année. Est-ce que sa dernière année sera l'an prochain? On aura sûrement l'occasion de reparler avec lui dans le vestiaire. Dans un petit moment, Dominique Bolduc va nous raconter ce qui s'est passé vendredi soir au Palais des Sports de Jonquière.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5, ma radio d'ici.
Ici Stéphanie Bellé, représentante du 92.5. Je m'adresse à tous les genres de commerces. Je vous propose nos auditeurs du 92.5 assidus qui se rendront acheter directement chez vous. Contactez-moi au 418-944-2878. J'ai un plan pour vous.
On vous a appris à marcher. On vous a appris à écrire et à compter. On vous a appris un métier. Mais on ne vous a jamais appris à perdre un être cher. Le complexe funéraire Carl Savard, c'est 02-49-49.
L'équipe Simard Via Capital, la meilleure équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous propose sa chronique « Conseil de choix pour mon toit » le dimanche durant l'émission « Les plaisirs démodés » à 14h. Ici Mario Vézina. Ce sera un réel privilège de partager avec vous les connaissances et les compétences de l'équipe Simard durant mon émission. Ne cherchez plus, l'équipe Simard Via Capital est disponible à bien vous servir dans vos projets d'acquisition ou de vente de votre maison. L'équipe Simard, 418-550-6561. 418-550-6561.
Pour vendre ou acheter, y'a pas meilleure façon. L'équipe Simard, votre solution maison.
Participez, vous aussi, à nos émissions. Je suis Éric Lavoie, recherchiste du 92.5. Je vous invite à nous contacter et participer en ondes aux émissions Réveillez-vous et Le Retour. Vous avez une information à partager ou être témoin d'un événement, n'hésitez pas à me contacter en privé au 418-818-4991. Ma radio d'ici, toujours près de vous, 818-4991.
Ma radio d'ici.
92.5.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5.
Ma radio d'ici.
La pause publicitaire, ça va être une discussion avec mon ami Dominique, qui, pauvre lui, est malade ce matin, cet après-midi. Dominique, bonjour.
Salut, Michel.
Prends rétablissement. J'ai dit, parce que normalement, on parle avec l'instructeur des Saguenayens, Yannick Jean, à cette heure-ci, mais il n'était pas disponible. Là, étant donné que j'ai pas pu aller au match des Marquis vendredi soir, j'étais à Nez Rouge, j'ai appelé Dominique. J'ai dit, Dominique, peux-tu me raconter ce qui s'est passé derrière le banc de l'assurancia de Ted Fermin? Il y a eu du grabuge. Raconte-nous ce qui s'est passé, Dominique.
On sait qu'il y a toujours beaucoup d'animosité derrière le banc des visiteurs lors d'un match des Marquis au Palais des Sports. Puis encore une fois, un autre épisode contre l'assurancia, contre Bobby Berry et ses joueurs qui aiment beaucoup narguer les spectateurs derrière le banc de leur équipe au Palais des Sports. Ce qui s'est passé, c'est après une mêlée durant la rencontre, Christophe Lourissier a été puni pour 2 minutes. Et après ça, il a reçu un 10 minutes de conduite et il a quitté. Et on sait que du côté du banc des visiteurs, il y a un abri qui protège les joueurs des gradins et des spectateurs. Puis je pense qu'on n'a pas mis l'abri à temps. Et on sait que Lozier aime narguer, c'est un gars qui dérange. Est-ce qu'il s'en serait pris aux spectateurs? On sait que les spectateurs l'attendaient de pied ferme à sa sortie de la glace. Mais ça a commencé à déraper. J'ai pas tout vu ce qui s'est passé, mais à un moment donné, là, il y a eu un engouement autour du banc et je sais qu'il y a eu des coups de portée. Ce que j'ai entendu, c'est que le gardien de but adjoint Étienne Marcoux aurait donné là plusieurs coups de poing à des spectateurs ou un spectateur. De ce que j'ai vu, à un moment donné, il y a un joueur, un partisan qui avait un casque de joueur de l'assurancia dans les mains.
Il l'a pris où, son casque?
Ça, je ne sais pas, dans la mêlée, là. Okay. Et à un moment donné, pour calmer le jeu, il a fallu des gars comme Patrick Bordelot, comme Chris Cloutier, qui débarquent de la glace, qui entrent qui aident derrière le banc de Thetford pour calmer là, les ardeurs.
En fait, pour jouer au gardien de sécurité.
Ben exactement, parce que les gardiens de sécurité font bien leur possible, mais face à des joueurs d'hockey et une foule en liesse, c'est un peu plus difficile.
Ouais. Ma crainte, pour avoir déjà été dans l'organisation des Marquis puis avoir vécu ce genre de situation, moi, là, quand j'étais propriétaire, ma crainte, c'était que, peu importe qui commence le bordel, là, ma crainte, c'était que quelqu'un se fasse blesser, que ce soit un joueur ou encore un spectateur. Les joueurs, ils ont de la protection, mais le joueur peut se faire blesser aussi. Mais le spectateur, il n'y a pas de protection. Puis là, il y a des bâtons d'hockey, un coup peut... Tu sais, les joueurs d'hockey, c'est des athlètes. Là. Il y a des spectateurs, des fois, ce n'est pas nécessairement des athlètes. Les spectateurs qui vont au hockey, ce n'est pas tous des athlètes. Là. Alors, tu sais, puis ça peut être un enfant qui peut être blessé, un enfant qui passe par là. Moi, ça a toujours été ma crainte. Donc, entre nous deux, puis les gens qui nous écoutent, puis l'organisation, il va falloir redoubler la sécurité derrière le banc de l'équipe adverse.
Je ne sais pas si on va devoir remettre la sortie des joueurs ou la Zamboni avec l'abri qui est à cet endroit-là. On l'a fait durant quelques années, puis ça fonctionnait bien. T'sais, on sortait plus directement derrière le banc des joueurs pour s'en aller au vestiaire, mais on allait directement ou la porte de Zamboni. Il y avait l'abri au complet qui allait là. Est-ce qu'on va être obligé de revenir à cette méthode? Je ne sais pas, mais c'est déplorable. C'est déplorable, puis ça fait passer l'équipe, puis ça fait passer encore la Ligue pour des mauvaises...
Parce que quand la tension monte, Dominique, c'est le danger. Oui. La tension monte dans les gradins, sur le banc des joueurs, la game est serrée, il y a des punitions. Puis là, les spectateurs vont lancer des injures aux joueurs adverses. Puis là, il peut se tirer des objets, de l'eau, de la liqueur ou de la bière. Puis là, c'est là que ça devient corsé. Puis les agents de sécurité, ils n'ont pas de poivre de Cayenne. C'est pas des policiers, là. Et là, que les joueurs des Marquis, s'ils ont été bien fins, ils ont été bien corrects de venir tenter de régler la situation. Mais je le dis, je le répète. Tu sais, là, j'espère qu'il n'y a eu personne de blessé, mais je verrais très mal un enfant ou une femme se faire casser le nez ou être blessé d'un échauffouré comme ça. Là, on ferait le tour de la Ligue. On se retrouve à RDS, c'est sûr. Là. Ils ne parlent pas souvent des marqués RDS et à TVA Sport, mais s'il y avait un incident comme ça, une femme ou un enfant se ferait blesser, alors là, c'est sûr qu'on passe à RDS.
Ouais, je suis parfaitement d'accord. Heureusement, il n'y a pas eu de... Sans pas avoir eu de blessés, la police s'est présentée après ces événements. Ça faisait quand même assez longtemps qu'on décidait d'arrêter une période avec 4 minutes à faire pour passer la Zamboni pour justement calmer les ardeurs parce que là, tu sentais qu'il y avait une tension. Donc, on a fait l'entraque directement, puis après ça, bon, on a recommencé la deuxième, puis on a fait la troisième période. Ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas vu ça.
Ouais. Tu sais, ça s'est passé dans le junior majeur, ça se passe dans la Ligue nationale de hockey, dans la Ligue nord-américaine, je l'ai vécu. Puis malheureusement, il y a encore des incidents de ce genre. Je ne sais pas quelles seront les précautions, les décisions qu'on va prendre, parce que c'est une décision d'organisation des Marquis. Puis je suis certain que les propriétaires, ils veulent pas que personne soit blessé dans ça, là.
Non, c'est sûr et certain. Je suis sûr que tous les propriétaires, les actionnaires des Marquis ont trouvé déplorable l'événement. Puis je disais sur les réseaux sociaux également, les spectateurs, la majorité des spectateurs mentionnaient encore une petite poignée de fans qui en mettent un peu trop, qui nous font paraître pour des... Désolé le terme, pour des colons.
Oui, mais des spectateurs crinqués, il y en a à Thetford, il y en a à Laval, puis malheureusement, il y en a à Jonquière, mais c'est juste une poignée de spectateurs. Ça n'en prend juste un, Dominique, malheureusement. Là.
Exact.
Bon. Hey, Dominique, au début de l'émission, j'ai parlé de Jake Allen. Je ne sais pas si tu as écouté un peu ce que je disais. Que Jake Allen, à mon avis, Dom, avec ce que j'ai vu contre Los Angeles samedi, 2 buts faibles, il n'a pas gagné depuis 3-4 parties, il a un gros salaire, il est âgé. Au moment où on se parle, je pensais, puis dis-moi qu'est-ce que t'en penses, là. Moi, je pense que Jake Allen n'a plus de valeur.
C'est
de valeur.
C'est sûr que sa valeur a baissé en ce moment, mais moi, je vois tellement de rumeurs, puis écoute, ça sort à tous les jours. Une journée, c'est Montembeau qui s'en va à Edmonton, le lendemain, c'est Allen qui s'en va à Edmonton. En ce moment, je pense même pas qu'il y a aucun gardien du Canadien qui a une valeur, on va te le dire, là. Il y a d'autres gardiens ailleurs qui ont une valeur. Je suis qu'à penser à Marc-André Fleury qui est à Minnesota. Il y a Gustafsson devant lui. Si on est pour chercher un gardien, je pense qu'on va aller de ce côté-là. On va le voir ailleurs. Mais arrêtez de penser que les gardiens du Canadien ont une valeur sacrément. Ouais. Ça n'a pas de bon sens là, de les voir. Oui, ils ont gagné 2 matchs sur 3 du côté de la Californie, là, mais c'est surtout pas grâce à eux autres. Parce que, écoute, là, il n'y a rien d'encourageant en ce moment. Montembeau, c'est in and out. Je m'attendais à ce qu'il sorte plus fort pour avoir le statut de numéro 1. Quand tu es obligé de faire un ménage à 3, c'est parce que ton coach...
Je veux dire, changer Montembeau, c'est notre meilleur au moment où on se parle. Puis Jake Allen, je l'ai dit au début de l'émission, mais je le répète, moi, je pense qu'il n'y a plus zéro valeur. Puis Primo, il n'a pas goalé assez dans la Ligue nationale. Lui non plus, il n'a pas de valeur. Fait que dans le fond, tu as raison, Dominique. Les gardiens de but du Canadien, ils n'ont pas de valeur. On n'aura rien en retour. Fait que gardons nos gardiens de but, mais il faut en trouver 2, là, pas 3.
Ouais, ça, je sais qu'on a beaucoup d'espoir au niveau des camps universitaires. On a un gardien qui est en feu en ce moment. Je pense que c'est Jacob Fowler qui, lui, va extrêmement bien. Et c'est sûr qu'il ne sera pas prêt avant 3-4 ans. T'sais.
OK. Hey Dominique, prends rétablissement. J'espère que tu vas être dans l'émission de demain matin. Mais si tu ne files pas, on comprend ça. T'es déjà bien.
Je devrais être là. Ouais.
T'es déjà bien fin de m'avoir parlé à l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup, Dom.
Ça fait plaisir.
Les Saguenayens sont en vedette dans l'équipe d'étoiles de la semaine. Il y a 3 des 5 joueurs qui font partie des Saguenayens de Chicoutimi. J'ai nommé Guité en attaque, Hussereau à défense et même le gardien de but, Précourt. 3 sur 5 joueurs des Saguenayens sur l'équipe de la semaine dans la Ligue junior majeure du Québec. Et en parlant des Saguenayens, dans quelques instants, un ancien défenseur étoile des Sags, Frédéric Bouchard, en compagnie de Yves Bolduc.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5, ma radio d'ici.
Bonjour, je peux prendre votre commande? Allô?
Oui. Ah ouais, OK. C'est quoi ta question?
Laisse-moi deviner. Un combo défoncé au volant, super joli.
Non, juste un hamburger avec des frites.
Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y deux fois. Fumer du pot affecte ton délai de réaction et ta concentration. Un message de Mad Canada.
La période des fêtes arrive à grands pas et le bar laitier chez Pinocchio vous offre ses fameuses bûches de Noël disponibles en 5 saveurs pour épater la galerie. Dépêchez-vous, vous avez jusqu'au 22 décembre pour réserver votre bûche. 418-512-1720 au bar laitier chez Pinocchio, rue Saint-Dominique, Jonquière.
Ce n'est pas une arnaque. Le 92.5 a bel et bien une nouvelle page Facebook. Les fans de CKJ 92.5, Meta, ayant bloqué tout le contenu d'informations canadiens de ces plateformes, nous avons décidé de créer une seconde page pour rester en contact avec vous, nos auditeurs. Venez aimer notre nouvelle page Facebook, les fans de CKJ 92.5, pour connaître les nouveautés à nos émissions, participer au bingo en direct ou encore contacter nos animateurs. Rendez-vous sur Facebook, la page Les fans de CKJ 92.5.
Dansons comme dans le temps, c'est l'histoire d'un disquaire et d'une animatrice.
Chalo.
Et Annick, qui ont uni leurs talents pour vous accompagner pendant la pandémie dans le bonheur et la bonne humeur. Une histoire qui se poursuit depuis 3 belles années. Vous faire bouger, danser, rigoler au son de différentes musiques de danse, c'est un plaisir renouvelé plein de nostalgie que nous partageons tous ensemble. Le plus grand défi pour Chalo, ne jamais mettre exactement la même chanson pendant toute une année.
Un travail de moine.
C'est pour ça que notre histoire d'amour est platonique, mais je ne désespère pas. Nous comptons sur vous pour répondre à notre question du jour sur la page Facebook de Dansons comme dans le temps, une émission diffusée du lundi au vendredi de 14h à 15h30 sur les ondes du 92.5. C'est bon pour le moral. 92.5.
Saguenay, Lac-Saint-Jean.
Les incontournables du week-end. Une explosion de variétés musicales du vendredi soir jusqu'au dimanche très tard. Dance music, country, musique instrumentale, succès rétro et sentimentaux et les belles mélodies d'autrefois. Au 92.5, le week-end, une enfilade de succès dans tous les styles. À vous de choisir le vôtre. À votre radio 100% régionale.
Saguenay, Lac-Saint-Jean. Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifot et Dominique Bolduc.
Il est 16h03 minutes. Yves Bolduc est avec nous en compagnie d'un ancien défenseur étoile des Sags. Yves Bolduc, présente-nous notre invité de cette semaine.
Oui, bonjour Michel. Donc, oui, un joueur étoile qui a connu très court passage avec les Saguenay, 50 matchs en saison régulière. Il était venu porter main forte au Saguenay lors de la saison 96-97, tout juste avant leur participation au tournoi de la Coupe Memorial à Gatineau. Un gars qui, si on regarde ses débuts, là, midget, là, ça s'alignait pas pour avoir la carrière qu'il a eue, mais finalement a connu toute une carrière de hockey junior. Le point culminant, évidemment, avec les Saguenayens. Ça s'est poursuivi par la suite avec 13 saisons dans le hockey professionnel. Et il a terminé le tout là un petit peu avant, au milieu des années 2000, avec un championnat dans la Ligue nord-américaine de hockey avec le Radio X de Québec. Cette année-là, il avait été nommé le meilleur défenseur. Et juste pour vous donner une petite idée, là, lors de son passage avec les Saguenayens, il a amassé le plus de points, le plus de buts, le plus de passes en saison régulière, la même chose en série éliminatoire, donc plus de points, plus de buts et plus de mentions d'assistance, et a été nommé sur la deuxième équipe d'étoiles. C'est un choix de 10e ronde, le 121e au total en 1993 par les Bisons de Granby, qui est natif de Québec, de la région de Québec, qu'on reçoit aujourd'hui. Frédéric Bouchard, bon après-midi.
Merci. Très belle présentation.
Attends un petit peu, le pot s'en vient. Là. T'étais bon dans le junior majeur, mais quand tu jouais Pee-Wee, là, Yves Bauduc semble nous dire que c'est à partir du midget que tu as commencé à te faire valoir. Quand t'étais Pee-Wee, t'étais-tu capable de sortir la rondelle de la zone?
Effectivement, c'était un long parcours dans mon cas. On a parti de loin, comme on dit.
Mais comment se fait-il que du jour au lendemain, tu arrives dans le midget, puis là, hop, Frédéric Bouchard prend de la vitesse, prend de l'assurance, réussit des bonnes sorties de zone, et surtout, quand tu es arrivé dans le junior majeur avec les Saguenayens, marquer des buts et des passes?
Ben, je pense qu'il y a beaucoup de travail au niveau de l'exercice, puis d'avoir rentré dans le gym de bonne heure, comme on dit, puis aimer m'entraîner. Je pense que c'est ce qui m'a propulsé là, à devenir plus gros, plus fort. Puis mes aptitudes aussi dans le temps. On sait que le hockey était peut-être un petit peu plus violent dans le temps. Puis c'est une carte que j'avais dans mon jeu, si on disait. En plus d'être un défenseur offensif, ben j'aimais ça à l'occasion, là, comme on dit, une petite bâton de temps en temps. Fait que j'avais des aptitudes qui m'ont aidé dans mes années à passer à un niveau supérieur.
Parce que quand je mentionnais là, que ça se profilait pas pour être une carrière comme tu as eu, je regarde les statistiques, 1992-93, 5 matchs dans la Ligue Midget 3A avec les gouverneurs de Sainte-Foy, aucun point. La saison suivante, tu débutes la saison avec les Beaucerons de Sainte-Marie dans la Ligue Junior 3A du Québec, 7 points en 13 matchs, et puis les Bisons de Granby te rappellent, 10 points en 45 matchs, et c'est par la suite que le tout s'est déclenché. Parle-nous un peu du processus là, qui a fait que tu es arrivé là. Puis, tu as commencé où ton hockey mineur?
Bien, si je me permets, la première question, c'est un dénommé monsieur qui était le coach à l'époque, monsieur Blair McKelty, qui était le coach à Granby à 17 ans. Puis, je me rappellerai toujours de l'appel que j'avais eu de sa part, vu que j'avais commencé dans le junior tier 2, puis on est loin du junior majeur. Puis, je me rappelle de Blair, son appel, il m'a fait monter 3 fois. Moi, je suis originaire de Beauport, parce que j'ai joué tout mon hockey mineur. Puis, à un moment donné, Blair, il dit, écoute, Fred, monte, j'aurais besoin, j'ai une place pour toi. Fait qu'on dit, comme en anglais, on dit, j'avais un try-out. Fait que je me souviens d'être monté 3 fois à partir de Québec, monté à Granby, passer 3 games sur le banc, pas faire un shift. La seule chose que j'avais, c'est un certificat cadeau d'une carte de gaz de 50$ aller-retour. C'est tout ce que j'avais pendant 3 matchs. Puis mon père me disait, Fred, tu vas probablement avoir ta chance à un moment donné. Mais juste d'être là pour un petit garçon qui vient de Beauport, qui vient de Charlevoix, de Petit-Rivière-Saint-François, d'avoir atteint la ligne Jean-Marie du Québec, c'était déjà un rêve. Fait que d'être assis là sur le banc, j'étais très fier de ça. Puis finalement, j'ai réussi à avoir un chiffre, 2 chiffres. Puis... c'est là que la roue elle a commencé. Le chemin s'est ouvert pour moi. Là, c'est suite à un appel de Blanc McKinsey.
D'après toi, Frédéric Bouchard, est-ce qu'il y a eu un déclic? Tu sais, Frédéric Bouchard qui joue sur le banc, il s'en vient des ligues mineures, des rangs midgets. Puis là, pouf, du jour au lendemain, tu deviens un joueur qui produit dans le junior majeur. C'était quoi le déclic d'après toi?
Ben le déclic, c'est je me souviens d'une certaine un dans mes premiers chiffres, là, c'est une bataille qui m'a mis comme sur la map, comme on dit, là, dans ce temps-là, donc c'était plus galère qu'aujourd'hui, bien évidemment. Puis je voulais faire ma place. Puis, je me souviens encore du jeune homme qui était devant moi. Puis je lui dis bon ben là, il arrive un échauffouré dans le coin. Je lui demande poliment, je dis là, on va se battre. Il me regarde, il dit non, mais là j'ai insisté un peu, je dis moi j'ai pas le choix, faut que je fasse ma place. Puis à partir de ce moment-là, la porte s'est ouverte et j'ai eu mon chiffre régulier parce que j'avais cette aptitude-là que j'étais capable de développer. Là. Puis c'est ça qui était un peu là, que je me souviens, là, qui m'a fait grandir.
Parce que si on regarde la progression, c'est vraiment à 3 niveaux. Là. Le hockey mineur, un petit apprentissage, ensuite des saisons de 60 points dans la Ligue de hockey junior majeur.
Apothéose dans ses 50 matchs avec les Saguenayens. 33 buts, 62 mentions d'assistance, 20 buts en avantage numérique pour 95 points. C'est vraiment là que Frédéric Bouchard a pu commencer à penser à une carrière chez les professionnels.
Effectivement, mais si je peux me permettre, j'ai des entraîneurs qui ont cru en moi. Là. J'ai eu M. Alain Rajotte puis M. Réal Payment, qui était le coach des Saguenayens, puis M. Alain Rajotte, qui était à Granby, mon coach pendant 3 ans. C'était des gens de confiance, puis ils croyaient en moi, puis ils me laissaient la latitude de m'exprimer sur la patinoire. Fait que ça a fini par donner des statistiques incroyables en jouant avec des bonnes équipes. Puis mon style de jeu, ben jouais un petit peu comme quatrième attaquant, si on veut. Là. J'appuyais beaucoup l'attaque, ce qui me permettait d'avoir, quand je rentrais, mes joueurs d'avant rentraient dans la zone offensive, viraient sur le côté. Moi, je rentrais, j'avais une qualité de passe, puis un lancer, je pense que ça, ma puissance, c'était mon lancer. Puis, mais c'est définitivement les coachs là, comme M. Rajot et M. Réal Témet qui m'ont ouvert le chemin et qui ont cru en moi. Puis par la suite, ça m'a permis de signer un contrat là, avec les Stars de Dallas.
Est-ce que Frédéric Bouchard avait une idole? Parce que quand je te regardais jouer avec les Saguenay de Chicoutimi, tu me faisais penser un peu à Gaston Gingras qui sortait très bien à rondelle, qui est un peu un quatrième attaquant. Nous autres, on a un correspondant ici qui nous parle à tous les vendredis. Tu le connais sûrement à la télévision, Gaston Thérien. Gaston Thérien, oui. Quand il jouait avec les Remparts de Québec, c'est un peu un gars comme toi, là, sortant à rondelle, un peu un quatrième attaquant. Est-ce que... t'avais un joueur, un idole, un gars que tu voulais, un modèle, quand tu jouais junior majeur?
Bien, quand je jouais junior majeur, c'est ça l'idéal pour moi. Quand je regardais un Paul Coffey qui transportait, mais un peu comme Gaston, effectivement, là, c'est des joueurs qui transportaient à la rondelle, des défenseurs offensifs. C'était pour moi une inspiration, mais non, c'est pas mal ça.
Parle-nous maintenant d'une personne qui a exercé une grande influence chez les Saguenayens à la fin de ta carrière junior.
Bien, je dirais qu'un gars comme M. Réal Témet m'a aidé à me développer, puis à croire en moi, là, puis au système de jeu qu'on a mis en place. Parce que si on se rappelle mon année en 97, on n'était pas nécessairement... la meilleure équipe sur papier. Là. On était des sous-estimés, comme on dit, des underdogs. On avait quelques joueurs. On avait le grand Marc Denis. On avait Denis Hamel qui était repêché. Puis le reste, on était juste, quand on dit une équipe soudée, mais les Saguenayens de 1997, c'était vraiment ça. C'était une équipe qui était soudée, où est-ce que le mot d'équipe prend son sens. Parce que quand on s'est remonté à la Coupe Memorial, on jouait contre des équipes qui avaient 15 joueurs repêchés par la Ligue nationale. Nous autres, on en avait seulement deux, mais on s'est rendu là parce que c'était vraiment le concept d'équipe avec Marc Bouchard qui était capitaine. C'était vraiment des on croyait tous un en l'autre. Puis c'est pas mal ça. Là.
Frédéric, quel était ton surnom avec les Saguenayens et qui étaient tes meilleurs amis?
Ben moi, mon surnom, ça a toujours été Butch. Hein? Frédéric Bouchard, Butch, ça a toujours été mon surnom. Puis les amis que j'étais proche, c'était Bruce Richardson, Denis Hamel, j'avais Marc Denis, bien évidemment, et un dénommé David Gosselin, que je suis toujours ami avec lui là, à ce jour, qui nous a connectés là, chez les Saguenayens du Coutumi, avec qui j'ai eu la chance de jouer dans la Ligue américaine plus tard dans mon parcours professionnel.
Depuis la fin de ta carrière dans la Ligue junior majeure du Québec, est-ce que tu as revu des matchs, puis qu'est-ce que tu as remarqué de différent si tu en as vu?
Ben écoute, moi, la grosse différence, là, si je peux me permettre, entre l'hockey d'aujourd'hui et l'hockey d'antan, notre junior, la structure de jeu est mieux, si on veut, est plus décortiquée. Je regarde les Remparts. La différence, puis c'est au niveau du physique. Tu sais, le junior d'aujourd'hui, les jeunes, quand ils font du faux-check ou ils ont la chance d'y aller pour... la rondelle ou la grosse mise en échec, ils vont toujours prendre la rondelle versus nous autres, dans notre temps, on aurait tout donné pour, excusez-moi l'expression, là, mais de donner une grosse mise en échec, faire mal à l'adversaire. Ce qui est plus ça aujourd'hui, c'est plus fancy. Moi, personnellement, je trouve peut-être ça moins excitant parce que dans le temps, les bonnes mises en échec, puis ça allait à la guerre, comme on dit. Versus, on peut regarder un match des Remparts puis avec des longues minutes à ce qu'il ne se passe pas grand-chose, à part un mouvement de rondelle, puis le système est bien établi. Mais par contre, à l'inverse, comme je vous dis, là, le jeu est peut-être... c'est différent, ça, c'est sûr.
On aime toujours savoir ce que sont devenus nos anciens avec les Saguenayens. Parle-nous maintenant de ta famille, ta conjointe, les enfants. Qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie et où tu habites?
Moi, je suis marié, j'ai 4 beaux enfants. Puis après ma carrière de junior, ben j'ai signé avec les Stars de Dallas. Puis après ça, j'ai eu un autre contrat professionnel avec la Ligue nationale avec les Prédateurs de Nashville. J'ai joué dans toutes les ligues, là, ligue internationale, ligue américaine, East Coast, United, en Europe, j'étais allé en Allemagne, en France, partout. J'ai eu toutes fait les ligues qu'il y avait pour. J'ai une belle carrière de 13 ans professionnel pour finir gagner la Coupe Futura avec le Razouis dans la ligue nord-américaine, qui était une belle fin de carrière là, pour finir chez soi là, au Colisée. Puis par la suite, le travail, prendre sa retraite à 32 ans, c'est quand même jeune. Là, fait que je me suis lancé dans l'immobilier. Je travaille pour Royal Lepage à Québec jusqu'à Charlevoix. Ça fait 15 ans que je cours Royal Lepage de la même manière. Puis je suis originaire et je vis toujours à Québec.
Frédéric, tu l'as mentionné tantôt, tu as appartenu aux Prédateurs de Nashville, aux Stars de Dallas. Juste de goûter à l'environnement du hockey professionnel, comment tu as trouvé ça?
Ah, moi, c'était magique. C'est mes plus beaux moments. Moi, ma première année là, avec les Stars de Dallas, c'est Guy Carbonneau qui était mon parrain. Je demeurais chez lui, il prenait soin de moi. J'ai eu la chance d'être avec Mike Modano, Bretol, des joueurs. Ça, c'est l'année qu'ils ont gagné la Coupe Stanley. Moi, c'était ma première année recrue avec eux autres. C'était formidable. C'était des expériences que j'oublierai jamais. Que d'ailleurs, j'aurais aimé avoir vu un téléphone iPhone prendre des souvenirs, des photos que je n'ai pas pu avoir dans le temps, ça n'existait pas. Fait que, ça a eu du bon puis ça a du moins bon parce qu'il y a des soirées, c'est une bonne chose que ça n'existait pas dans notre temps. Par contre, pour les souvenirs, ben, je me dis, tabarouette...
Mais t'as-tu gardé un gilet, une rondelle, un hockey?
Ah, j'ai pas grand-chose.
Non! Gilet, là, ben voyons donc, Frédéric!
Non, dans les souvenirs, j'ai le gilet des saignées du Coutumi, mon numéro 27, que j'ai regardé à cause de mon dernier record, là, de plus de points dans ces...
T'as même pas gardé un gilet quand t'es allé à l'entraînement où les games ont concours des Prédateurs ou des Dallas?
Ouais, mais j'en ai peut-être une ou deux au chalet, là, que j'ai gardé.
Aïe, ah, hey, garde ça, ben oui!
Yves? Tantôt, tu nous parlais, Frédéric, de Réal Pema, qui avait été une personne importante pour toi dans ta carrière. Est-ce que tu as gardé un bon souvenir également d'une autre personne dans l'entourage des Saguenayens là, qui pourrait être un peu du personnel administratif, du personnel de soutien, un autre coéquipier?
Ben oui, ben j'ai David Gosselin, comme je vous disais ultérieurement, là, que j'ai joué. On a bâti un lien, là, un base ensemble, comme on dit en anglais, avec les Saguenayens. Par la suite, j'ai joué dans la Ligue américaine, dans le club école des Prédateurs de Nashville, à Milwaukee, dans la Ligue américaine. On était roommates, j'ai demeuré avec David Gosselin là-bas. Puis aujourd'hui, bon, on se voit encore à l'occasion. Puis on a les enfants, on a la famille, mais quand on se voit, c'est toujours un plaisir de se remémorer qu'on a participé avec les Saguenayens de Chicoutimi, d'avoir été à la Coupe Mémorial.
Tu as évolué pour les Bisons de Granby, le Laser de Saint-Hyacinthe, les Huskies de Rouyn-Noranda avant d'arriver à Chicoutimi. Parle-nous des arénas où tu avais le plus de succès et le moins de succès, à part le Centre Vézina.
Ben, je dirais que, vite comme ça, où est-ce que c'était très difficile à jouer là, personnellement, c'est à Hall. Hall a toujours eu avec Claude Julien qui était là, toujours eu des bonnes équipes. Puis je sais pas, c'est une question d'éclairage, la foule. C'est très intimidant de jouer là-bas. On fallait être prêt, comme on dit. Tu n'allais pas là, on se préparait, puis c'était des gros matchs. Puis où est-ce que j'avais le plus de succès, puis que c'était pour nous autres des jeunes de 19-20 ans, moi, c'était le Metro Center à Halifax. Je me souviens encore comme c'était hier. C'était la première fois de ma vie que je rentrais avec un autobus dans l'aréna, qu'on sortait directement de l'autobus pour rentrer dans nos chambres respectives. Je trouvais ça vraiment impressionnant. Ça faisait vraiment la ligne nationale. Là. C'était quelque chose de vraiment beau.
Tu avais une bonne palette recourbée également quand tu jouais au hockey junior. On se rappelle des débuts des palettes recourbées avec Bob et Hall, mais toi, dans le junior, ta palette est assez... Est-ce qu'ils t'ont déjà mesuré le bâton, la courbe de ta palette?
Ben, vous êtes un bon observateur. Plus ma carrière a continué, puis ça s'est empiré, mon affaire. À la fin, je me suis rendu que c'était quasiment un fer neuf que j'avais dans les mains. C'était incroyable. À chaque année, j'en rajoutais. Mais ce qu'il faut se souvenir dans ce temps-là, c'est que le 10 il fallait qu'à partir du milieu de la palette qui touche, finalement, aussitôt que le milieu, c'était correct, après ça, je curvais, mais J'ai jamais eu de problème avec ça, Dieu merci.
Mais là, pour être honnête, Frédéric, l'observation vient d'un amateur, quelqu'un qui te regardait jouer, puis il m'a écrit, ouais. Dit, Michel, parle-y de sa courbe sa palette.
C'est effectivement vrai, puis les connaisseurs dont je m'en fais parler encore aujourd'hui, puis à la fin, ici à Québec, je coupais mes palettes vraiment, là, j'enlevais quasiment, je la raccourcissais d'un demi-pouce, puis ça donnait quasiment... Je la travaillais comme on dit, là, puis pour qu'elle soit encore plus puissante, puis qu'elle ait top net, comme on dit, là, mais c'était mon gonfin.
Et l'auditeur Frédéric, qui est un partisan des Sags, parce que pour se rappeler de ça, il fallait qu'il surveille ton jeu, il m'écrit juste un peu de tape sur le bout du bâton.
Il est fort.
Il est fort, le gars, hein?
Oui, il est fort.
Il s'appelle Marc Cormier. Alors, lui, c'est un partisan de Frédéric Bouchard.
Bon, ben, je le salue. Je le salue. Salut, Marc.
Frédéric, tu nous parlais tout à l'heure de tes 13 saisons de hockey professionnel. Effectivement, tu as joué dans la Ligue internationale, la Ligue East Coast, la Ligue United. Tu es allé également deux saisons en Europe. En 2002-2003 à Augsburger dans la Ligue allemande et en 2006-2007 à Rouen dans la Ligue Magnus pour 6 matchs. Qu'est-ce qui a fait que tu es allé en Europe?
Je t'ai rendu là dans mon plan de carrière. Écoutez, là, j'ai mes 4 premières années, là, mes 3 années avec les Stars de Dallas, après ça, une autre année avec les Predators de Nashville. Ça faisait 4 ans que j'avais des contrats de la Ligue nationale, mais je jouais dans la Ligue internationale, Ligue américaine. Là, on se ramasse après ça. La ligne internationale, elle est tombée. Ça s'est appelé la United League. Là, je me suis ramassé à Fort Wayne, qui est une ville exceptionnelle pour moi. J'ai eu la chance d'être capitaine de l'équipe là-bas pendant 3 ans. J'ai joué avec le frère de Wayne Gretzky, Brett Gretzky, qui était là. On a gagné des championnats sous le nom de l'entraîneur, M. Dave Allison, qui a coaché pour les Sénateurs d'Ottawa dans le temps du long-term de la Ligue nationale. Fait que Fort Wayne était une belle ville au niveau du hockey amateur professionnel. Là, on avait des belles foules de 10 000, 15 000 personnes à l'année. Donc on pouvait jouer le mercredi, le dimanche soir, c'était toujours plein. Encore aujourd'hui, là, les promesses de Fort Wayne, j'ai juste du bon à dire.
Je présume que le frère de Wayne Gretzky, Brett, avec qui tu as joué, devait se faire parler de son frère, pas à peu près.
Bon, oui, définitivement.
Sûrement, hein?
Oui, oui, oui. Oui. Puis le fait d'une petite anecdote, là, je me rappelle que c'était Springfield qui était le club affilié des Phoenix, où ce que Wayne Gretzky coachait. Les Springfield avaient besoin, ils se battaient pour faire les séries éliminatoires. Puis Wayne Gretzky, il avait appelé directement Brent, son frère, il avait dit, c'est qui ton meilleur défenseur offensif qui peut venir aider Springfield pour nous faire, je pense qu'on voit dans mes stats, Springfield, j'ai joué 10 games, 5 buts, 5 passes. Ben, ils m'ont fait prendre l'avion d'urgence, première classe. J'étais allé dans les American de Springfield, puis je les ai aidés à faire les séries là, pour... closer la fin de l'année là-bas grâce à un certain Wayne Gretzky qui m'a payé l'avion first class pour aller aider son club de la Ligue américaine.
Wow, c'est un beau souvenir. Nous, ici au Saguenay, Frédéric, on est Marquis Jonquière, mais tu as joué pour la Radio X et tu étais tannant offensivement parlant parce qu'on t'a aimé ici avec les Saguenay du Coutimi, mais avec la Radio X, plus tannant un peu, tu étais avec l'équipe adverse.
Oui, ça, c'était d'autres belles années, ça, effectivement. Puis pour finir sur l'autre question que vous me demandiez aussi, pour l'Europe, qu'est-ce qui a fait que je suis allé en Europe? Bien, c'est en fait, après ces années-là à Fort Wayne, là, le temps est venu pour moi de regarder là, la Ligue nationale. On est rendu à 26 ans, Frédéric. On se regarde devant le miroir et on se dit, là, les chances de jouer dans la Ligue nationale, ça n'arrivera pas. Fait que là, c'est là que les joueurs, souvent, vont prendre une décision. On dit, regarde, on va s'en aller en Europe, on va aller voir. Puis les conditions de travail sont excellentes, que ce soit au niveau là, des impôts ou ce que l'équipe prend en charge là, avec nos contrats professionnels. Fait que j'ai décidé de partir avec Xavier Delisle puis Philippe Audette. On est parti trois joueurs qui avaient sensiblement le même CV. Notre agent nous a trouvé une place à Augsbourg dans la Ligue nationale de l'Allemagne. qui était une expérience exceptionnelle. On avait la chance de visiter là, on était à une demi-heure de Munich. C'était des beaux moments, comme on dit.
Durant ton passage de 50 matchs en saison régulière, 21 en série éliminatoire, nos partisans aiment toujours avoir des petites anecdotes, là, parce que 35-40 ans après, là, on peut compter ce qui se passe un peu. Parle-nous d'une anecdote inoubliable qui s'est passée lors de ton passage avec les Saguenay.
Oh, regarde, j'en ai. Les plus beaux moments, c'était vraiment l'esprit d'équipe d'avoir soudé. Je me souviendrai avant de participer aux séries, le meeting d'équipe qu'on avait fait tout le monde. On avait pris la parole, on avait dicté à qui qu'on offrait nos séries, à une personne qui nous était proche ou quelqu'un qui était parti dans l'autre monde. Puis tout le monde avait. C'est très touchant là, quand les gens, on parle à cœur ouvert, puis on se regarde. On va dédier nos séries pour telle personne. Souvent, il y en a qui étaient la maladie, des gens qui avaient le cancer, des gens qui étaient des grands-parents, des sœurs, des frères. Si on est une équipe de 20-21 joueurs, on ne sait pas nécessairement qui traverse quoi, à quel moment. Hein. Mais de prendre la parole devant tout le monde, puis je me souviens que ça avait été très émotif. Puis c'est ce qui nous a tous soudés ensemble, définitivement. Puis on s'était tous fait faire des colliers comme à l'armée. Avec les Saguenay qui ont obtenu notre première médaille. Puis la deuxième médaille était, que j'ai encore aujourd'hui, puis la deuxième médaille était identifiée à la personne à qui qu'on dictait, qu'on donnait nos séries qu'on voulait jouer pour. Puis ça nous a amené, où est-ce que ça nous a amené, là, tu sais. Puis le fait d'avoir été à Coupe Mémorial avec les Saguenay à tous les jours dans le Journal du Québec, dans le Journal Le Soleil, à RDS, c'était fou, là. C'était nous autres all the way, là, c'était de toute beauté. Là.
Dernière question, Frédéric. Qui est le meilleur joueur avec lequel tu as évolué avec les Saguenay?
Non, sans aucun doute, le grand Marc Denis. Écoutez, son CV, tout le monde le sait. Marc est allé gagner les championnats olympiques, la médaille olympique. Il est allé jouer une game avec son équipe dans la Ligue nationale. Il a eu une saison incroyable. Puis d'avoir eu la chance de jouer avec lui, puis veut pas, Marc et moi, on était dans la même cellule, parce que moi, je pouvais être quelqu'un d'offensif, puis alors je donnais beaucoup de lancers, fait qu'on avait besoin l'un de l'autre. Moi, je savais que j'allais créer 3-4 chances de marquer dans une rencontre, mais lui, il allait recevoir plus de lancers puis de chances de marquer contre lui, fait que moi, je créais de l'offensive, mais je savais que j'allais donner peut-être un but ou un 2 contre 1, mais Marc faisait la différence, puis c'est ce qui a fait qu'on a eu cette année championne-là, qui va rester gravé jusqu'à la fin de mes jours. Là.
Frédéric Bouchard, ça a été vraiment agréable d'en savoir plus sur ta belle carrière. Merci beaucoup de nous avoir parlé au Saguenay. Yves Bolduc, merci. Qui sera notre invité lundi prochain?
Choix de cinquième ronde en 1994 chez les Saguenay. Il n'a disputé que 45 matchs. Il a été également un choix de 9e ronde en 1996 par les Coyotes de Phoenix. Mais avec les Saguenay, il a quand même dirigé l'équipe durant 8 saisons, dont 6 comme entraîneur adjoint. Il est à sa 11e saison avec les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières, où il connaît une carrière extraordinaire. Marc-Étienne Hubert sera notre invité la semaine prochaine.
Un gars de chez nous. Merci beaucoup, Yves Bolduc. Salutations à Frédéric Bouchard. Les Sénateurs d'Ottawa ce soir contre les Panthers de la Floride, mais il y a un match dans la NFL, les Bears de Chicago contre les Vikings du Minnesota. Les gars du retour sont prêts. Il vous manque un soldat, par exemple, les gars, là. C'est toi qui remplaces Dominique? Jean-Michel Côté sera avec Éric Lavoie pour le retour à la maison.